France Culture, bienvenue à vous, il est midi et demi. C'est-à-dire l'heure pour vous de retrouver Thomas Cluzel pour son journal. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Au Yémen, la grande coalition militaire commandée par l'Arabie pour soutenir le pouvoir face aux rebelles houthis serait-elle sur le point d'éclater à tout le moins? Les derniers combats entre les séparatistes sudistes et les forces gouvernementales l'ont-ils aujourd'hui grandement fragilisé?
Dans votre journal également, à la veille d'une nouvelle manifestation interdite à Hong Kong, plusieurs figures du mouvement pro-démocratie ont été arrêtées ce matin.
Et un coup de filet dénoncé par des associations comme une tentative chinoise de museler l'opposition.
En France, trois jours avant leurs élèves, les professeurs font leur rentrée aujourd'hui.
Avec en particulier une réforme du lycée qui engendre toujours et encore beaucoup de stress et d'incertitudes parmi les enseignants. Les femmes qui suivent un traitement hormonal contre les effets de la ménopause ont-elles un peu plus de risque de développer un cancer du sein? C'est du moins ce que semble confirmer une étude épidémiologique publiée ce matin. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, l'avocat Arnaud Klarsfeld. Avec lui, nous parlerons bien-être animal. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Nous poursuivons notre discussion avec la romancière et écrivaine Leonora Miano à l'occasion de la parution de son roman Rouge, Impératrice chez Grasset. C'est une fable amoureuse, passionnelle, mais aussi politique où elle invente, imagine un monde du futur dans un continent africain unifié où les femmes ont la part belle et où une minorité, les sinistrés, se met de côté au banc de la société, se replie sur elle-même. Nous reparlerons de tout cela dans une vingtaine de minutes, Thomas.
Merci et à tout à l'heure. Le Yémen, déjà plongé dans la pire crise humanitaire au monde depuis que les rebelles houthis au nord ont chassé le gouvernement de la capitale, Sanaa, verra-t-il éclater une nouvelle guerre dans la guerre? En l'occurrence, un combat fratricide entre les forces gouvernementales d'un côté et les séparatistes du sud de l'autre. Sans compter que la reprise hier par les sudistes de la ville d'Aden, dont le gouvernement a fait sa capitale provisoire, aura donc non seulement ouvert un nouveau front, mais plus encore, elle ébranle désormais davantage la cohésion d'une coalition militaire au Yémen dont les deux piliers, l'Arabie Saoudite et les Émirats, se retrouvent aujourd'hui aux antipodes. Pourquoi ? Parce que si Saoudiens et Émiratis se sont certes unis au départ pour empêcher les rebelles houthis venus du Nord et soutenus par l'Iran de prendre le contrôle de l'ensemble du Yémen, en revanche, un clivage persiste entre Riyad et Abu Dhabi, le premier soutenant le gouvernement, quand le second appuie les séparatistes. Ou quand la remise au goût du jour de la revendication indépendantiste des sudistes vient donc faire éclater les divergences entre l'Arabie Saoudite d'un côté et les Émirats Arabes Unis de l'autre, en révélant combien au fond leurs objectifs au Yémen ne sont pas les mêmes, ainsi que l'explique François Frison-Roche, chercheur au CNRS, joint par Nabila Hamel.
Les combats contre les forces gouvernementales montrent qu'il y avait manifestement une incompréhension au sein de la coalition sur ce qu'il fallait faire au Yémen. Les forces rebelles indépendantistes sont plutôt salafistes. Les forces gouvernementales seraient affiliées plutôt avec le mouvement Al-Islah, donc les frères musulmans. Or, pour les Émiratis, les frères musulmans est un mouvement terroriste, puisque l'objectif des Émirats, c'est d'avoir le contrôle sur ce Yémen du Sud, et ils ne tiennent absolument pas à avoir dans leur future action une force affiliée aux frères musulmans qui serait opposée aux Émiratis. Et le contrôle de cette ville d'Aden serait un élément essentiel pour crédibiliser ces milices indépendantistes.
Et est-ce qu'à terme, on n'assiste pas à un bras de fer entre l'Arabie Saoudite et les Émirats? Pour le moment, l'Arabie Saoudite ne critique pas trop les Émirats Arabes Unis.
Si l'Arabie Saoudite commence à avoir des problèmes avec les Émirats, à la fois c'est mauvais pour son image de marque, c'est mauvais pour ses campagnes diverses et variées, notamment au Yémen, c'est mauvais aussi dans son objectif de continuer à lutter contre l'Iran, car si deux pays de la péninsule arabique, deux pays immensément riches, se mettent à se disputer, évidemment que cela renforce la position de l'Iran.
Voilà, François Frison-Roche, chercheur au CNRS, il répondait à Nabila Hamel. Les pourparlers entre les États-Unis et les talibans, dont le 9e cycle qui se veut décisif est actuellement en cours au Qatar, sont entrés dans leur dernière ligne droite. Hier, Donald Trump a annoncé qu'en cas d'accord, 8600 soldats américains contre 13 000 aujourd'hui resteraient dans un premier temps en Afghanistan. Presque au-delà d'un retrait plus ou moins important des Américains, en échange de la promesse des insurgés que le pays ne deviendrait pas un refuge pour d'autres groupes islamistes combattants, eh bien l'accord négocié, dont beaucoup redoutent qu'il ne serve en réalité qu'à hâter le départ des troupes avant que Donald Trump ne brigue un second mandat à la Maison-Blanche, doit également déterminer un calendrier clair. Or, sur ce point, eh bien, aucune précision n'a été apportée hier. La Pologne s'apprête à accueillir ce week-end une quarantaine de délégations étrangères à l'occasion des commémorations du début de la Seconde Guerre mondiale et un invité était tout particulièrement attendu, Donald Trump. Le président américain avait prévu de passer deux jours sur place, notamment pour confirmer le déploiement supplémentaire de soldats de l'OTAN sur le sol polonais. Sauf que le locataire de la Maison-Blanche a finalement annulé hier soir sa visite en raison d'un ouragan qui se dirige actuellement vers les Bahamas et qui pourrait frapper lundi les côtes de Floride. Alors Donald Trump a appelé personnellement son homologue polonais pour s'excuser tout en lui promettant qu'il se rendrait bien à Varsovie dans les prochains mois. Et en attendant, c'est le vice-président Mike Pence qui se rendra donc sur place à sa place. Toujours est-il qu'à Varsovie, eh bien, cette nouvelle contrarie évidemment les plans du pouvoir politique en place. Les précisions de notre correspondant Thomas Giraudot.
C'était l'image attendue et espérée ce dimanche, Donald Trump et son homologue polonais Andrzej Duda côte à côte. Grande déception donc dans les rangs du parti au pouvoir. Les ultra-conservateurs du PiS, Droit et Justice, sont très pro-américains. Depuis l'élection de Donald Trump à Washington, il ne cesse de flatter l'homme d'affaires afin de le convaincre de renforcer les effectifs militaires de l'OTAN sur le sol polonais. Il y a déjà 5000 militaires américains ici. La Pologne a ainsi accédé à beaucoup de demandes américaines ces derniers mois. D'abord en février dernier, en organisant à Varsovie une grande conférence sur la sécurité au Moyen-Orient et sur l'Iran sans l'Iran. Ensuite, en mettant sur la table 2 milliards de dollars pour construire de nouvelles infrastructures d'accueil pour les troupes américaines. Enfin, en promettant durant plusieurs mois à Donald Trump d'appeler la nouvelle base de l'OTAN Fort Trump. Finalement, il ne devrait pas y avoir de nouvelle base, mais 1000 soldats supplémentaires seront déployés sur le sol polonais. Varsovie attendait justement que Donald Trump en reparle ce week-end lors de sa visite, précisant la mission de ses soldats. Cela aurait ainsi montré que le gouvernement polonais et les États-Unis se tiennent d'un seul bloc, ensemble prêts à défendre la population face aux voisins russes, toujours aussi inquiétants. La venue du président américain était donc un argument de campagne supplémentaire pour le parti au pouvoir à un mois et demi des élections législatives. Varsovie devra se contenter du vice-président américain pour jouer cette carte de la sécurité auprès des électeurs.
Après que des sources anonymes avaient laissé entendre que 24 marins ukrainiens détenus en Russie ainsi que le cinéaste Oleg Sentsov étaient en route pour Kiev ce matin, la présidence ukrainienne a fini par démentir qu'un échange de prisonniers avec la Russie ait bien eu lieu, tout en précisant que les tractations se poursuivaient entre les deux chancelleries. Faut-il craindre une nouvelle rébellion en Colombie dans une mise en scène de nature à faire ressurgir les pires craintes quant à la résurgence d'un conflit qui en 50 ans a fait plus de 260 000 morts et 45 000 disparus? D'anciens rebelles des FARC ont trahi et munis de fusils ont annoncé dans une vidéo reprendre les armes contre le gouvernement de Bogota. Un retour en dissidence qui interpelle moins de 3 ans seulement après la signature d'un accord de paix, alors que la situation s'est déjà dégradée depuis l'an dernier avec la victoire à la présidentielle du candidat de droite Iván Duque, opposé à cet accord avec les FARC. Voilà près de 3 mois maintenant que la région semi-autonome de Hong Kong traverse sa pire crise depuis sa rétrocession à la Chine, avec des manifestations et des actions quasi quotidiennes qui pour certaines ont dégénéré en affrontements violents avec les forces de l'ordre. Et ce matin, après l'interdiction par la police d'une nouvelle grande manifestation prévue demain, plusieurs figures du mouvement pro-démocratie ont été arrêtées. C'est le cas en particulier de Joshua Wong, 22 ans, l'un des leaders du mouvement des parapluies qui en 2014 avait déjà paralysé les rues de Hong Kong et qui reste encore très populaire au sein de la contestation actuelle. Les précisions de notre correspondante Florence de Changy.
Selon le président du parti démocratique, Nathan Lowe, Joshua Wong a été poussé dans une camionnette banalisée vendredi matin vers 7h30 alors qu'il marchait entre chez lui et la station de métro de South Horizon, la station de son quartier située sur l'île d'Aple Chau, une petite île couverte de tours de logements sociaux reliés au sud de l'île de Hong Kong par un pont. Il a été emmené au commissariat central de Wan Chai. La police a confirmé l'arrestation mais pas ses motifs. Joshua Wong était sorti de prison le 17 juin où il avait terminé de purger une peine de quelques mois pour obstruction et désordre public liés au mouvement des parapluies d'il y a 5 ans. Quelques heures plus tard, la police a annoncé avoir arrêté chez elle Agnès Chow, numéro 3 du même parti démocratique. Un autre leader étudiant, Andy Chan, fondateur d'un parti indépendantiste, à présent interdit, a quant à lui été arrêté à l'aéroport hier alors qu'il partait au Japon. Hong Kong se prépare à marquer samedi 31 août le 5e anniversaire de l'annonce par Pékin d'une réforme électorale qui a donné lieu au mouvement des parapluies. Mais la manifestation prévue samedi a été interdite par la police qui dit avoir de fortes raisons de craindre de nouveaux débordements violents, d'autant que cette marche avait pour destination le bureau de liaison de Pékin, où des heurts ont déjà eu lieu à plusieurs reprises. Le délégué général des organisateurs de la manifestation, le Front civil des droits de l'homme, Jimmy Cham, a par ailleurs été attaqué avec une batte de baseball jeudi dans un restaurant par deux hommes masqués.
En Italie, Giuseppe Conte, une nouvelle fois candidat au poste de Premier ministre, a été chargé hier par le président de former un nouveau gouvernement, avec cette difficulté, non des moindres, de devoir renforcer une nouvelle majorité parlementaire autour d'une équipe inattendue, composée par deux formations jusqu'à présent, unies surtout par une histoire de détestation profonde, le mouvement anti-système 5 étoiles d'un côté et le parti démocrate de centre-gauche de l'autre. Chacun des deux partis s'est déjà réuni hier pour débattre d'un programme de gouvernement commun. Il semble que des convergences d'apparence auraient été trouvés notamment sur des questions économiques et environnementales. Alors si en Italie l'excès d'ambition dopé par une très forte popularité aura finalement eu raison du patron de la Ligue d'extrême droite, Matteo Salvini, qu'en sera-t-il au Royaume-Uni, cette fois-ci pour un certain Boris Johnson, lequel semble partager non seulement le goût pour le coup d'éclat permanent, mais aussi la vision d'une gouvernance personnelle qui fait bien peu de cas des institutions. Face à la décision du Premier ministre de suspendre le Parlement, une mesure dénoncée comme un coup d'État par ses détracteurs, l'opposition travailliste britannique a annoncé hier qu'elle déclencherait un débat en urgence la semaine prochaine pour tenter d'empêcher donc Boris Johnson de faire sortir le Royaume-Uni de l'UE sans accord de retrait. La pétition lancée mercredi soir a elle d'ores et déjà dépassé le 1,5 million de signatures. En revanche, première défaite dans la bataille judiciaire, cette fois-ci engagée par les opposants au Brexit, et puis avec en Écosse un juge qui a rejeté donc ce matin une demande visant à faire déclarer illégale la suspension du Parlement. Si la tension semble être légèrement retombée entre le ministre de l'Éducation et les syndicats, les sujets de préoccupation n'ont manifestement pas totalement disparu en cette rentrée. Parmi eux, les salaires. Cette semaine, Jean-Michel Blanquer a fait valoir que les professeurs verraient leur salaire annuel revalorisé de 300 euros en moyenne l'an prochain, sauf que cette augmentation avait en réalité été décidée par le précédent gouvernement et n'est donc en aucun cas une nouvelle mesure. Autre sujet de préoccupation sur la table, la réforme des retraites qui en l'état risque de pénaliser les enseignants. Enfin, ultime ombre au tableau, la réforme des lycées. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Vous êtes rendu ce matin au lycée Camille Claudel à Palaiseau dans l'Essonne, en région parisienne. Vous y avez rencontré les professeurs qui effectuaient donc leur rentrée. Dans quel état d'esprit, Hakim, les avez-vous trouvés?
Eh bien, pour les 60 enseignants du lycée Camille et Claudel, c'est l'heure des retrouvailles avec un sujet sur toutes les lèvres, la réforme du bac. Avec 8 spécialités au choix dans cet établissement, dont 3 obligatoires dès la première, le proviseur Éric Arieux a dû anticiper dès l'année dernière pour éviter les problèmes de salle et de planning.
On offre 8 spécialités, hein, les 7 classiques plus NSI, numérique et sciences de l'informatique. Donc la difficulté, c'était d'honorer les triplettes demandées par les élèves et les familles. Alors on a réalisé dès le premier trimestre un certain nombre de sondages qu'on a reproduit au deuxième et au troisième trimestre. On a vu d'ailleurs de ce point de vue-là de grosses évolutions au fil de l'eau suite au travail sur l'orientation qui était réalisé par les professeurs principaux.
Alors qui dit réforme dit aussi nouveaux programmes et nouvelles matières comme NSI, numérique, sciences, informatique. Pour être prêt, monsieur Lavary, professeur de mathématiques et d'informatique, a dû pratiquer un stage intensif de 5 semaines mis en place par le rectorat mais aussi bûcher tout l'été, d'autant que le niveau sera très relevé, le correspondra à une première année de licence.
Alors pour l'informatique, oui, il y a eu beaucoup de travail. En mathématiques, le travail est quand même un petit peu plus limité puisque les programmes ont changé un petit peu à la marge. Maintenant, au niveau de l'informatique, oui, et là, ici, il y a un vrai défi pour les enseignants de formation puisque l'enseignement d'informatique qui existait au lycée était de contenu bien moins important que ce qui est prévu à partir de maintenant avec la réforme.
Et pour rassurer les professeurs et lever les doutes, la rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, a fait le déplacement et prévient, pas question d'utiliser les difficultés de la rentrée pour remettre en cause la réforme du lycée.
On va regarder comme le lait sur le feu tout ça. Dans toutes les rentrées, il y a des ratés. Il y a des ratés d'emploi du temps, il y a des ratés d'accueil d'élèves. Et ça arrive tous les ans. Heureusement, dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas le cas. Mais je crois que ce sur quoi il faudra veiller, c'est ne pas accuser la réforme du lycée pour le moindre sujet de petit emploi du temps, de difficulté à appréhender les programmes. Voilà, oui, il y a un enjeu, mais les choses sont prêtes et je pense qu'il suffit de dérouler maintenant ce qu'on a préparé depuis plusieurs mois.
Mardi, lors de sa conférence de presse de rentrée, Jean-Michel Blanquer, qui se veut apaisant, a annoncé la mise en place d'un comité de suivi de la réforme du lycée et n'exclut pas des évolutions au courant de l'année.
Merci Hakim Kasmi. Après que le maire de Langouette en Ille-et-Vilaine, lequel avait tenté de prendre un arrêté interdisant l'utilisation de pesticides à moins de 150 mètres de toute construction, s'est fait retoquer par la justice administrative, voilà que les arrêtés anti-pesticides se multiplient désormais dans l'Hexagone, alors évidemment contestés par les préfectures, tous devraient donner lieu à des recours en justice. Toujours est-il que, soucieux de protéger donc leurs administrés et plus encore de mettre le débat sur la place publique, eh bien une trentaine de maires politiques de tous bords auraient donc d'ores et déjà signé de tels arrêtés. Stéphane Robert a joint ce matin au téléphone le maire de Langouette, justement, Daniel Cueff.
Ben écoutez, c'est très surprenant parce que ça a été une avalanche de soutien de partout, des soutiens citoyens, des milliers de soutiens citoyens. Aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, ce matin, j'ai encore 40 cartes postales de soutien. J'ai 47 000 messages qui me viennent de l'ONG Agir pour l'environnement qui a appelé à envoyer des messages. Il y a des gens qui organisent des pétitions locales. Mes collègues maires me contactent. Leur réaction est double. La première, c'est de dire il faut vraiment faire quelque chose contre les pesticides de synthèse. Nous aussi, nous avons des habitants qui viennent nous voir, nous disent bon, qu'est-ce qu'on fait. Et puis d'autres qui nous disent mais c'est quand même intolérable que vous, en tant que maire, vous mettiez en place une mesure de protection des populations et que vous soyez entravé et empêché par l'État. Donc il y a quelque chose qui ne passe pas du tout chez les maires aujourd'hui.
Donc vous avez l'impression d'avoir touché là quelque chose d'un petit peu essentiel en matière de défense de l'environnement avec cet arrêté?
Oui, ça fait l'effet d'un révélateur, d'un catalyseur, parce que le pesticide, si vous voulez, c'est quelque chose qui est une intersection entre la santé des gens. Et dans le même temps, en Bretagne, vous voyez bien qu'il y a la question de la biodiversité, la question de l'eau, il y a la question des abeilles. Et donc, cette notion de pesticide est une notion centrale. Si on règle ce problème des pesticides de synthèse dans l'agriculture, on fait une avancée écologique et environnementale majeure.
Voilà, Daniel Cueff, le maire de Langouette, il était interrogé par Stéphane Robert. Les femmes qui suivent un traitement hormonal contre les effets de la ménopause ont-elles un peu plus de risque de développer un cancer du sein? C'est en tous les cas ce que semble confirmer une étude épidémiologique publiée ce matin. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Alors en réalité, d'autres études ont déjà montré une telle association, mais l'article paru aujourd'hui donc dans la revue britannique The Lancet innove notamment, Tara, en qualifiant le risque pour chaque type de traitement.
Oui, cette méta-étude analyse toute la littérature sur le sujet, donc 58 études déjà parues, et elles portent sur plus de 100 000 femmes. Disons immédiatement que le risque de cancer du sein augmente peu avec ces traitements contre la ménopause. Peu, certes, mais il augmente quand même. Les chercheurs ont quantifié, vous venez de le dire, cette augmentation en fonction du type de médicaments que prennent les femmes. Il faut se rappeler qu'au moment de la ménopause, les ovaires arrêtent progressivement de produire les hormones qui servent à la reproduction. Pour pallier les effets collatéraux, bouffées de chaleur, ostéoporose, troubles du sommeil, beaucoup de femmes sont traitées. D'après l'étude, si elles associent pendant 5 ans œstrogène et progestérone en continu, elles ont 8,3% de probabilité de développer un cancer du sein contre 6,3% pour une femme qui ne se soigne pas. Si elles prennent ces deux hormones par intermittence, donc pas tous les jours, la probabilité tombe à 7,7%. Et si elles ne prennent que des œstrogènes, le risque est de 6,8%. C'est donc un tout petit peu plus qu'une femme sans traitement, dont je rappelais le pourcentage tout à l'heure, 6,3%. Il est donc important de noter qu'en cas de prise de médicaments pendant 10 ans, l'excès de risque double comparativement à un traitement sur 5 ans. Enfin, si les femmes utilisent juste un gel en application locale, gel contenant des œstrogènes seulement, il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer du sein.
Merci Tara Schlegel. L'invité de la rédaction aujourd'hui, dans le cadre de cette journée spéciale sur le bien-être animal, l'avocat Arnaud Klarsfeld. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour.
Première question Arnaud Klarsfeld, vous combattez depuis longtemps déjà tout ce qui avilit au fond l'animal pour le plaisir barbare de l'homme. D'où vous vient cet engagement?
J'ai du mal à dire que je combats, parce que j'ai vu mes parents quand ils s'engagent, c'est un combat qui est jusqu'au bout. J'écris des articles, je prends des positions, mais je ne combats pas vraiment. Et je serais bien embêté aujourd'hui de combattre vraiment, parce que la politique du gouvernement, je la trouve en matière de bien-être animal relativement plus que médiocre, il n'y a pas d'avancée, mais en même temps affaiblir le candidat qui est au pouvoir, alors qu'on est dans une situation difficile où il y a les extrêmes, j'ai du mal à m'engager en... Je m'engage, mais je m'engage un peu à moitié, et pas autant que je voudrais m'engager, parce que c'est une cause qui sera une cause très importante au 21e siècle. Le moins qu'on puisse faire quand on se nourrit des animaux, c'est de les tuer en leur causant le moins de souffrance possible. Il y a des choses qui peuvent évoluer très rapidement, comme l'abolition de la corrida, ou l'abolition de la chasse à courre, comme ça se... Ça s'est produit dans d'autres pays européens, ou alors inscrire, et je crois que ça c'est important, le droit des animaux, ou de certains droits des animaux dans la Constitution, afin que les tribunaux, le Conseil d'État et la Cour de cassation puissent donner leur jurisprudence et faire avancer les choses.
Une question de Laura Dulieu.
Arnaud Clarsfeld, vous parliez de tuer sans douleur. Est-ce que c'est vraiment possible l'abattage sans douleur des animaux ?
J'ai pas dit sans douleur, mais en causant le moins de souffrance possible. Je ne suis pas complètement végétarien, je ne dis pas que les gens doivent devenir végétariens, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'engager à manger moins de viande. Plus il y a d'élevage, plus il y a de déforestation, moins il y a de biodiversité. Tout cela est très important. Et je crois que le président de la République doit comprendre qu'il doit s'engager. Chaque fois que je le vois, je lui en parle. Il m'avait dit banco pour une mission sur les animaux. Il ne l'a pas fait, peut-être parce qu'il est sous la crainte de certains, je ne veux pas dire lobby, mais disons certains groupes de pression, comme les chasseurs ou ceux qui aiment la corrida ou les agriculteurs. Mais il doit s'engager parce qu'il ne peut pas, je voudrais lui dire, monsieur le président de la République, vous ne pouvez pas dire à la fois il faut s'engager pour la biodiversité et en même temps tolérer la corrida. La corrida est quelque chose dont on sait qu'elle est mal puisqu'elle est interdite en France, sauf dans les pays où elle existe depuis un certain temps. C'est un peu comme l'esclavage, finalement, aux États-Unis, où les territoires nouveaux étaient interdits à l'esclavage et parce qu'on savait que c'était mal, mais les territoires où ça existait dans le sud, eh bien, ça pouvait continuer. Mais ça ne pourra pas durer. Il y a quand même des symboles et les gens doivent commencer à, le gouvernement doit commencer à réfléchir et il doit commencer à réfléchir en essayant d'éviter, disons, les contrastes, c'est-à-dire dire qu'on s'engage pour la biodiversité et tolérer la chasse à courre alors que ça, en Grande-Bretagne ça se fait avec un leurre, ou la corrida, disons, on peut très bien faire olé olé sans tuer le taureau à la fin. Bon, ce sont des choses qui sont faciles à faire et qui sont de l'ordre du symbolique.
Alors vous parlez de la corrida et de la chasse à courre, quelles autres mesures vous attendez du gouvernement qui a annoncé des mesures fortes pour début octobre ?
Oui, il a des mesures, c'est pas des mesures fortes, il va sans doute annoncer des mesures sur les dolphinariums, ce qui est normal qu'un orque n'a rien à faire dans une baignoire ou même dans une baignoire améliorée. Bon, ça va prendre du temps. Ça fait des siècles ou même des millénaires qu'on traite relativement mal les animaux, des millions d'années. Mais il faut commencer à réfléchir. L'abattage rituel doit évoluer. Moïse et Mahomet, quand ils ont édicté leur loi, c'était à la fois pour des raisons hygiéniques, mais aussi pour tuer l'animal en leur causant le moins de souffrance. Le couteau devait être bien aiguisé et tout ça. Maintenant, il y a d'autres moyens pour abattre les animaux en leur causant le moins de souffrance. C'est pas une question de laïcité, mais c'est une question de reconnaissance envers les animaux. Si on les tue, eh bien, on doit essayer de les tuer en leur causant le moins de souffrance possible. Et les religions qui pratiquent l'abattage rituel doivent commencer à réfléchir parce qu'il y a un fort courant d'opinion qui en faveur des animaux dans le monde occidental, tant qu'il y aura la paix, s'il y a une guerre nucléaire, bon, le bien-être animal passera un peu à la trappe, mais tant qu'il y a la paix, dans un Occident qui est plutôt riche, eh bien, les gens s'occupent de leurs animaux. Vous avez qu'à voir que les sommes allouées aux cadeaux de Noël pour les animaux. Donc, et tout ce qui se passe en Californie finit par arriver en France après un certain temps, les cigarettes, le mariage homosexuel et le bien-être animal.
Rapidement, en 2012, le Conseil constitutionnel a estimé que les corridas étaient conformes à la Constitution. Est-ce que c'est au niveau du droit que ça se joue en tant qu'avocat? Qu'est-ce que vous préconisez?
Oui, c'est au niveau du droit que ça va se jouer, évidemment. On est dans une société légaliste et le Conseil constitutionnel a dit que c'était légal. Enfin, ne s'est pas prononcé parce qu'il est le Conseil constitutionnel et il a dit, écoutez, vous me demandez, il y a un article du Code pénal qui dit que les actes de cruauté envers les animaux sont interdits, mais il n'y a pas de droit constitutionnellement garanti pour les animaux. Donc c'est pour ça qu'en introduction, je vous ai dit que j'étais pour que certains droits des animaux soient inscrits dans la Constitution, comme c'est le cas au Luxembourg, comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas ailleurs, en Inde ou dans d'autres pays. Et ce qui permettrait aux tribunaux de faire avancer la cause animale.
Et on terminera par ces mots. Merci Arnaud Clarsfeld d'avoir répondu à notre invitation.
C'est
merci
moi
également.
Qui vous remercie parce que ça me fait très plaisir.
Alors, voilà. Du lieu, on termine avec un mot de météo. Le temps de cet après-midi sera marqué par un soleil généreux sur l'ensemble du territoire. Attention toutefois aux évolutions orageuses sur les reliefs. Quant aux températures, elles afficheront entre 21 et 37 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.